Il est 21h à Bamako et à Conakry, 22h à Abuja. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Lutte contre Boko Haram au Nigeria, où en est-on de l'appui occidental ? Retour sur le parcours d'Ahmed Abdi Godane, chef suprême du groupe islamiste Al-Shabaab. Nous ferons un détour par la Guinée, où deux nouvelles zones ont été déclarées contaminées par le virus Ebola. Enfin, nous serons au Mali, qui continue de tenter de mettre en place un processus de réconciliation. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger et bien à ce micro. Les présidents nigériens et tchadiens sont en discussion à N'Djamena pour harmoniser la lutte contre le terrorisme dans la région, alors que Boko Haram contrôle désormais des pans entiers du nord-est du Nigeria. Goodluck Jonathan, le président du Nigeria, est arrivé ce soir dans la capitale tchadienne, où il a été accueilli par le président Idriss Déby Itno. Un accord de coopération devrait être mis en œuvre entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun, qui va viser à combattre les insurgés et les terroristes. Propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, l'Union africaine appelle les pays du continent à lever toutes les restrictions aux voyages mises en place à cause de l'épidémie. Cette demande intervient alors que la situation au Libéria s'avère pire que prévu. Nicolas Tibino.
Nkosazana Dlamini-Zuma, la présidente de la Commission de l'Union africaine, estime que la reprise économique est nécessaire dans les pays touchés. Cette déclaration intervient alors que plusieurs pays ont fermé leurs frontières avec les pays touchés et plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs liaisons. Selon l'OMS, près de 4000 personnes ont déjà été infectées par le virus Ebola depuis le début de l'année, dont plus de 2000 sont mortes. Les trois pays les plus touchés sont la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, mais des décès ont également été recensés au Nigeria et une infection a été confirmée au Sénégal. À Monrovia, la situation est désespérée. L'Organisation mondiale de la santé affirme ce lundi dans un nouveau rapport que plusieurs milliers de nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola sont à craindre dans les trois prochaines semaines au Libéria. En Sierra Leone voisine, les autorités vont obliger les citoyens à rester chez eux trois jours durant, du 19 au 21 septembre prochain.
Et attentat suicide en Somalie, 12 civils ont été tués, une trentaine de personnes blessées dans le Bas-Chabel. L'attaque visait un véhicule blindé de la MISOM, la force de l'Union africaine. La majorité des victimes étaient à bord d'un minibus. Conséquence du crash de l'avion d'Air Algérie qui a fait 116 morts au Mali en juin dernier, les autorités algériennes disent avoir lancé une enquête sur la gestion et la qualité des prestations de la compagnie aérienne, mesure prise après une série d'incidents et de pannes techniques qui ont affecté sa réputation. Samedi, un avion de cette compagnie a fait demi-tour 10 minutes après son décollage en raison d'un problème technique. Et en août, deux avions s'étaient heurtés au moment de stationner à l'aéroport d'Alger. L'enquête sera diligentée par l'inspection générale du ministère des Transports.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les militants de l'État islamique ont attaqué une ville au nord de Bagdad ce lundi avec des chaloupes canonnières et une voiture piégée. Bilan au moins 17 morts et plus de 50 blessés. Les djihadistes font l'objet depuis plusieurs semaines de frappes aériennes américaines en appui aux troupes irakiennes et kurdes dans le nord et l'ouest de l'Irak. Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, s'est rendu lui aujourd'hui au front dans le sud-est du pays. Il est arrivé à Mariupol alors que l'on signale de nouveaux affrontements entre forces gouvernementales et séparatistes pro-russes malgré l'accord de cessez-le-feu de vendredi dernier. Et puis, dissension au sein du gouvernement d'Union nationale palestinienne. Le Hamas accuse le président Mahmoud Abbas de chercher à torpiller l'accord de réconciliation. Hier, le leader du Fatah et chef de l'autorité palestinienne en Cisjordanie avait accusé le groupe islamiste de diriger un gouvernement fantôme dans la bande de Gaza. Le différend survient deux semaines après un conflit de 50 jours entre Israël et le Hamas, conflit qui s'est terminé par un accord de cessez-le-feu. Le prince jordanien Zayed Raad Zayed Al Hussein est le tout nouveau haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est le premier arabe musulman à occuper ce poste. On finit avec l'Afghanistan, qui sera le prochain président de ce pays. Un audit des suffrages du second tour a pris fin vendredi, mais on attend encore les résultats. Et ce lundi, le candidat Abdullah Abdullah a rejeté d'avance ce réexamen du vote conduit sous les auspices de l'ONU. Il soutient qu'il a gagné le vote national du 14 juin et que les négociations avec son rival Ashraf Ghani sur la formation d'un gouvernement d'unité se trouvent dans une impasse. Ce week-end, le président Barack Obama a exhorté les deux hommes à accepter l'issue de l'audit et trouver un compromis politique afin de ne pas compromettre la stabilité du pays. La suite avec Sahel+.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par la situation insurrectionnelle dans le nord-est du Nigeria. L'influence de Boko Haram ne cesse de s'étendre et les autorités nigérianes ont appelé la communauté internationale à l'aide la semaine dernière. Pourtant, il y a quelques mois, lors de la prise en otage de quelques 200 jeunes filles, plusieurs pays occidentaux avaient dépêché des missions militaires pour aider le Nigeria. Qu'est-il advenu de cet appui occidental contre Boko Haram ? Bakassikoura a posé la question à Walid Fares, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à la National Defense University, ici à Washington.
Il y a des plans qui sont soumis au gouvernement pour une action commune franco-américaine avec l'appui des États alliés africains. Seulement, bien sûr, il faut coordonner avec le gouvernement nigérien parce que cela implique, bien sûr, des opérations sur le territoire nigérien. Et possiblement, si ces personnes qui ont été enlevées ont été transférées au Cameroun ou dans d'autres régions, il va y avoir une consultation avec ces gouvernements demain.
Est-ce que vous avez l'impression que les gouvernements occidentaux, notamment les États-Unis, sont un peu découragés par l'attitude d'Abuja?
Oui, c'est vrai. On sent qu'à Washington, le dossier Nigeria-Boko Haram n'est plus en première manchette à cause certainement de ce qui se passe en Syrie et en Irak. Mais nous savons très bien qu'au Congrès américain, au Parlement européen, il y a des comités qui font des pressions pour qu'une opération internationale soit sérieuse et qu'elle aboutisse à la libération de ces jeunes filles. C'est épouvantable ce qui se passe pour ces jeunes femmes. Mais il y a aussi une discussion avec le gouvernement. Il me semble qu'il y a des demandes qui ont été faites au gouvernement nigérien et le gouvernement nigérien probablement aurait d'autres vues sur la question. Là, ce n'est pas très clair ce qui se passe entre Washington et le gouvernement nigérien.
Et en ce moment, on a la sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, qui est au Nigeria. Elle a demandé au Nigeria de prendre ses responsabilités. Est-ce qu'on peut voir en cela une expression de la frustration de Washington face à l'attitude d'Abuja?
Oui, il me semble que le département d'État américain et donc l'administration américaine a demandé quelques mouvements à Abuja. Cela n'a pas encore été exécuté parce que sans une coopération complète et stratégique avec le gouvernement nigérien, il sera très difficile pour des forces spéciales, pour l'équipement international de pouvoir aboutir. Cette opération ne pourra aboutir que s'il y a un appui total, je ne veux pas dire inconditionnel, bien sûr, mais un appui total de la part du gouvernement nigérien. Il me semble que la responsable américaine maintenant se trouve au Nigeria pour discuter de cette phase.
Et qu'en est-il des forces occidentales qui avaient été envoyées au Nigeria pour retrouver les otages ?
Le département d'État, le département de la Défense, le Pentagone ne révèle pas beaucoup sur les détails techniques. Mais ce que nous savons à Washington, c'est qu'il y a une action en ce qui concerne une collection de renseignements, espionnage, disons. Il y a beaucoup d'actions en ce qui concerne la location, l'identification, et aussi il y a des scénarios qui sont soumis à l'administration américaine, aux Européens aussi, pour voir quel serait le meilleur moyen d'extraction, parce que le Boko Haram a dispersé les otages dans plusieurs endroits, et donc on ne veut pas en Amérique, et au moins qu'il y ait une rétribution, une vengeance contre les autres. Si certaines filles sont libérées, il y a le risque quand même que les Boko Haram, qui sont des terroristes, vont prendre vengeance sur d'autres.
Le chercheur et enseignant Walid Fares. Nous avons choisi de revenir sur le parcours d'Ahmed Abdi Godan, le chef suprême du groupe islamiste Al-Shabaab, aujourd'hui dans notre dossier. La Maison-Blanche a confirmé vendredi dernier qu'il avait été tué lors d'une frappe aérienne américaine menée en Somalie. Pour Washington, c'est une grande perte symbolique et opérationnelle pour le plus important allié d'Al-Qaïda en Afrique. Gabe Joshlow, le correspondant du service anglophone de la VOA en Afrique de l'Est, revient sur la vie et le parcours d'Ahmed Abdi Godan. Un portrait présenté par Jacques Aristide.
Orateur éloquent, poète, doté d'un fort charisme, Ahmed Abdi Godan prend les rênes d'Al-Shabaab en 2008, après la mort d'Aden Hashi Airo dans un raid aérien américain. Vite, il impose son autorité, poursuit avec encore plus de terreur les attaques contre le gouvernement somalien et contre les forces étrangères en Somalie. il va plus loin en 2012 en forgeant une alliance formelle avec le réseau terroriste Al-Qaïda, Abdi Ente et le directeur de l'Institut d'études politiques à Mogadiscio.
Il dirigeait l'organisation avec une main de fer. Il l'avait faite totalement sienne.
À 37 ans, Godan devient l'un des hommes les plus recherchés pour terrorisme par les États-Unis, qui mettent sa tête à prix pour 7 millions de dollars. En 2013, il dirige l'attaque sanglante contre le centre commercial Westgate de Nairobi. Bilan, 67 personnes tuées. Au fil des ans, Godan n'hésite pas à éliminer ses rivaux. Il rajeunit le groupe d'insurgés et crée son carré de fidèles qu'il nomme Amniyat. Son adjoint, Ibrahim Al-Afghani, est liquidé en 2013 après l'envoi d'une lettre ouverte à la direction centrale d'Al-Qaïda pour se plaindre de la tyrannie de Godan. Un autre détracteur, le djihadiste américain Abu Mansour Al-Amriki, est tué la même année. Godan n'a donc pas de successeur désigné, ce qui ouvre la voie à une guerre de pouvoir interne. Abdi Ente, à nouveau.
L'organisation s'expose à plus de désintégration et de fragmentation. D'autres groupes extrémistes encore plus violents peuvent aussi être des centres d'Al-Shabaab.
Toutefois, se débarrasser des dirigeants du groupe ne signifie pas la fin d'Al-Shabaab, l'analyste indépendant Abdi Weli Sheikh Abdi Samed.
Vous pouvez tuer une personne, mais vous ne pouvez pas tuer l'idéologie. Du moins, cela prend beaucoup de temps.
Le politologue est également d'avis que la lutte interne au sein d'Al-Shabaab est l'occasion pour le gouvernement somalien de tendre la main aux factions plutôt modérées dans les villes, autrefois sous contrôle du groupe. Abdi Weli Abdi Samed, encore une fois.
Nous devons nous attaquer aux causes profondes des griefs des populations. Il faut voir comment nous pouvons regagner la confiance de la société somalienne qui, elle-même, peut facilement vaincre Al-Shabaab.
Fin août, les forces de maintien de la paix de l'Union africaine, la MISOM, et l'armée somalienne ont lancé une nouvelle opération pour reprendre les bastions d'Al-Shabaab, notamment après l'avoir chassé de Mogadiscio en 2011, ce qui n'a cependant pas empêché le groupe de continuer ses attaques meurtrières dans différentes régions du pays.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique, 101.7 FM, notre fréquence à Bangui, en Centrafrique. Direction la Guinée, où les autorités sanitaires ont déclaré que deux nouvelles zones étaient désormais contaminées par le virus Ebola. Le président Alpha Condé appelle à une mobilisation nationale pour vaincre le virus, mais exclut toute fermeture de frontières avec le Libéria et la Sierra Leone, deux des autres pays touchés par la fièvre hémorragique. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Koya, à 50 km de Conakry et Kélouané à plus de 600 km de la capitale, ont enregistré leur premier cas de malade d'Ebola. La Guinée peine à stopper l'évolution de l'épidémie, mais renforce la riposte. Désormais, il s'agit d'élargir la lutte en tenant compte du Libéria et de la Sierra Leone, deux autres pays touchés par la fièvre hémorragique à virus Ebola. Selon le président guinéen Alpha Condé, la Guinée a fait des progrès dans la réponse à Ebola, mais pour lui, la lutte doit être commune.
Nous, on est arrivé presque à la fin. On voulait même fermer le centre. Donc, malheureusement, le Libéria, là où il y a eu la maladie, c'est la zone où il y avait les rébelles avant, donc il n'y a pas tellement de structures gouvernementales, il n'y a pas d'hôpital. Donc les gens traversent la frontière. Mais ce sont nos parents, ce sont nos frères. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous battre pour la Guinée, pour la Sierra Leone et pour le Libéria. Tant qu'il y aura un cas d'Ebola ici, en Sierra Leone ou en Libéria, on n'est pas sorti de la galère. Parce que vous ne pouvez pas empêcher les gens de traverser la frontière.
Depuis l'apparition du virus Ebola en Guinée en janvier, plus de 600 cas sont confirmés, parmi lesquels 50 agents de santé, dont 26 sont décédés. Le président Condé, qui s'adressait aux responsables de son parti, le RPG, a fait un avertissement aux médecins.
Beaucoup de médecins sont morts, ou des infirmiers ou des chauffeurs. Parce qu'ils doivent porter les gants. Quand tu finis malade, tu enlèves le gant, tu jettes, tu laves les mains, mais ils ne font pas. Je les ai donc à, si ça continue, je vais mettre un militaire à chaque étage. Aucun médecin ne peut rentrer s'il n'a pas de gants.
Devant la persistance de l'épidémie, les Guinéens restent hantés par la peur. Il faut informer, sensibiliser, à rappeler le président Alpha Condé, informer les Guinéens comme cette jeune fille qui ne semble pas connaître les modes de transmission du virus.
J'ai peur quand nous sommes en groupe, si quelqu'un est infecté, la parole qu'ils mènent vers moi. J'ai peur si Ebola ne m'attrape pas.
Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Finissons l'émission par le Mali qui essaye de mettre en place un processus de paix et de réconciliation. Beaucoup de citoyens maliens suivent de près les pourparlers d'Alger et l'occasion pour notre correspondant Kassim Traoré de leur demander ce qu'ils pensent du processus de réconciliation.
Le mot réconciliation n'est pas nouveau pour les Maliens. Pour les leaders religieux, ce mot a tout un sens pour les communautés maliennes. Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako.
C'est vrai, la société moderne autorise seulement celui qui a tort à se cacher et en utilise même de la justice. À trouver des avocats qui vont le défendre. Que l'on trouve des circonstances atténuantes, d'accord, mais qu'on n'aille pas jusqu'à dénier des faits réels. Minkera ou Kera ou Kafo. La grande question qui se pose à moi aujourd'hui, c'est que est-ce que les Maliens ont compris le drame qui les menaçait et qui plane encore sur leur tête? Il est vrai que nous avons focalisé le problème de la partition du pays entre le Nord et le Sud. Je pense que tout observateur doit constater que la division se trouve sur plusieurs fronts, sur l'ensemble du territoire.
Tous les Maliens sont unanimes qu'il faut des rencontres à la base pour faire la réconciliation des communautés. Cela peut passer par plusieurs canaux. Bourema Alaï Touré, président du Conseil national de la société civile.
On ne peut pas réussir la réconciliation sans ces canaux communautaires parce que nous avons prôné toujours la réconciliation inter- et intra-communautaire. Parce que c'est le premier pan de réconciliation. Et aussi, nous travaillons bien à connaître les communautés, à connaître tous les types de conflits qui ont gangréné ces communautés depuis très longtemps. Quelque part, il faut arriver à ce qu'on se dise la vérité. Il faut aussi vraiment qu'on arrive à nous réconcilier, soit par la justice, soit par nos autres canaux traditionnels de pardon que nous connaissons.
Bien qu'étant impliqués dans le processus de dialogue et du retour de la paix, les femmes comptent jouer pleinement leur rôle dans le cadre de la réconciliation. Safiatou Moulay Aïdara, présidente des femmes de Al-Karama.
On partage les mêmes idées et on a le même souci de cette réconciliation nationale qui nous tient à cœur aujourd'hui. Parce que ce Mali est à nous tous. Il faut que nous, Maliens, on arrive à débattre de nos problèmes ensemble. Et pourquoi on associe les femmes? Parce que c'est la branche la plus fragile de notre société. Donc elle doit être au même niveau d'information que nous, les femmes aussi, qui sont au sud et au nord. Donc on doit s'associer pour débattre de nos problèmes et trouver les solutions.
Déjà, la Fédération des organisations féminines du Mali est à pied d'œuvre pour entendre les femmes et recenser leurs préoccupations. Damele Oulematousso, président de la FENASCOF.
Ça permettra aux femmes de se positionner, ça permettra aux femmes de donner leur avis, leur réaction et leur point de vue par rapport à la situation. Et on va prendre tous ces inputs-là, n'est-ce pas, qu'on va intégrer dans nos rapports pour alimenter un peu les réflexions et puis les processus en cours.
Les Maliens se préparent à tous les nouveaux avant l'adoption du pré-accord des pourparlers d'Alger, qui aura besoin des critiques et suggestions des Maliens avant son adoption en accord global de sortie de crise. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
CL+, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Joe Gill qui était à la technique. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec Amadou et Mariam qui nous chantent La Réalité. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur La Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.